Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 31 juillet 2023, en direct de Washington, Idrissa Sevulia. Pour commencer les titres, manifestation de soutien aux nouvelles autorités du CNSP hier au Niger, visite du président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby. La CEDEAO n'exclut pas un recours à la force pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko entame une grève de la faim après son arrestation vendredi. La République centrafricaine a voté hier sur un projet de nouvelle constitution. Haïti salue l'annonce par le Kenya qu'il est prêt à diriger une force multinationale. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco avec Élisée Oumpatine pour les sports. Pour l'instant, le journal. Le Niger sous sanctions européennes et africaines depuis le renversement du régime du président Mohamed Bazoum par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dirigé par le général Abdourahmane Tiani. Alors que des manifestations de soutien aux nouvelles autorités s'organisent dans le pays, le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, s'est rendu sur place dimanche pour échanger avec les différents acteurs. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Rien n'a filtré des rencontres entre le président de la transition tchadienne et les nouvelles autorités du Niger ce dimanche après-midi. Mahamat Idriss Déby est venu en début d'après-midi après un tête-à-tête avec quelques membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à l'aéroport de Niamey, s'est entretenu avec le général Tiani au niveau du palais présidentiel. Des sources ont annoncé également qu'il a rencontré les deux anciens chefs d'État, Mohamed Bazoum et Issoufou Mahamadou. Peu avant l'arrivée du président de la transition tchadienne au Niger, une mobilisation de soutien au CNSP a eu lieu dans la capitale Niamey et dans certaines localités du pays. De milliers de manifestants ont en effet salué l'action des officiers qu'ils ont encouragés dans leur volonté de donner notamment un nouveau souffle à la lutte contre le terrorisme. La manifestation s'est malheureusement terminée avec des incidents au niveau de l'ambassade de France au Niger. Des manifestants se sont en effet attaqués à la représentation diplomatique, brûlant des pneus à sa devanture en scandant des slogans hostiles. Les autorités françaises avaient la veille annoncé la suspension de leur aide au développement et de leur appui budgétaire au Niger comme conséquence de la rupture de l'ordre constitutionnel et démocratique par le CNSP. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Les heures de dimanche, les slogans anti-français et le déploiement de drapeaux russes dans les rues de Niamey rappellent des prises à partie similaires au Mali et au Burkina Faso voisins, où les juntes qui ont pris le pouvoir ont poussé dehors militaires et diplomates français. En réaction aux manifestations d'hier, le président français Emmanuel Macron a menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts au Niger. Paris a aussi salué les décisions prises par les chefs d'État de la CEDEAO. Réunis hier, dimanche à Abuja au Nigeria, ces dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont donné un ultimatum d'une semaine aux putschistes au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel. Ils soulignent qu'ils n'excluent pas un recours à la force, Nani Talani.
La CEDEAO demande la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et le retour complet à l'ordre constitutionnel au Niger, selon ce sommet présidé par le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu. Si ces demandes ne sont pas satisfaites au bout d'une semaine, la CEDEAO promet de prendre toutes les mesures nécessaires pouvant inclure l'usage de la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la défense des pays de la CEDEAO devraient se réunir immédiatement. L'organisation régionale a également décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger. D'autres sanctions financières ont été décidées, notamment un gel des avoirs des responsables militaires impliqués dans la tentative de coup. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, suspendus depuis leur coup d'État, n'étaient pas présents aux assises. Mahamat Idriss Déby Itno, le président du Tchad, qui n'est pas membre de la CDAO mais voisin du Niger, également puissance militaire au Sahel, allié de la France, a été convié et a participé à ce sommet. Il s'est porté volontaire pour parler au chef militaire du Niger et faire un rapport à la CDAO, a déclaré ce dimanche à Reuters, une source de la présidence tchadienne.
À l'instar de la CDAO, l'Union africaine et les pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, ne reconnaissent pas les autorités issues du putsch et demandent un retour à l'ordre constitutionnel. Washington a fait part de son indéfectible soutien à M. Bazoum, assurant que le coup d'État mettait en péril le partenariat entre les États-Unis et le Niger. Nous nous joignons à la CDAO et aux dirigeants de la région pour demander la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et de sa famille et la restauration de toutes les fonctions de l'État au gouvernement légitime et démocratiquement élu, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, arrêté vendredi et mis en cause pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir entamé une grève de la faim dimanche face à ce qu'il a appelé tant de haine, de mensonges, d'oppression et de persécution. M. Sonko doit être interrogé ce lundi par un juge, selon un de ses avocats. Le juge décidera ou non de retenir les charges qui pèsent contre lui. Au cours d'une conférence de presse hier à Dakar, les avocats de Sonko ont accusé les autorités de n'avoir pas respecté les droits de leurs clients. Les Centrafricains ont été appelés aux urnes hier pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution de leur pays. Le scrutin s'est déroulé dans la capitale et dans plusieurs villes de province. Même si aucun incident n'est à déplorer, le taux de participation reste mitigé. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Malgré de nombreuses inquiétudes liées à la situation sécuritaire, le vote s'est déroulé sans aucun incident dans presque la quasi-totalité des centres et bureaux de vote du pays. Certains centrafricains que nous avons rencontrés devant les bureaux de vote à Bangui s'expriment.
J'ai exprimé mon vœu parce qu'effectivement nous avons besoin de changer de loi fondamentale puisque l'ancienne là est celle qui a été rédigée pendant la transition et qui n'est pas adaptée à nos réalités.
Il y a une motivation telle que vous voyez, les gens sont là et on attend un résultat positif suite à cette élection.
En tant que centrafricain, je veux aussi donner mon opinion en ce qui concerne la nouvelle constitution qu'on veut adopter pour notre pays.
Le chef de l'État, Faustin Conchtadira, a voté au lycée Barthélemy Bogonda dans le premier arrondissement de Bangui. Si un engouement a été observé dans certaines localités, dans d'autres, le taux de participation était faible. Pour l'autorité nationale des élections, le scrutin s'est déroulé de manière générale, sans aucune difficulté. Mathias Barthélemy Moruba, son président.
Finalement, le peuple centrafricain s'est rendu dans les urnes. Et ça, c'était un grand défi qui a été levé. Sur l'ensemble du territoire, dans les 5448 bureaux de vote que nous avons pu organiser les élections. Beaucoup de gens nous ont découragés. Beaucoup ont pensé que nous ne pouvons pas arriver à terme.
Selon la loi électorale, l'autorité nationale des élections a 8 jours pour publier les résultats provisoires de ce vote. Les résultats définitifs seront rendus publics par la Cour constitutionnelle. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Le ministère haïtien des Affaires étrangères a indiqué accueillir avec beaucoup d'intérêt l'annonce par le Kenya qui se dit prêt à prendre la tête d'une force multinationale dans ce pays de la Caraïbe déchiré par la violence. Lionel Gahima.
Haïti apprécie à sa juste valeur cette manifestation de la solidarité africaine, a dit le chef de la diplomatie haïtienne Jean-Victor Généus dans un communiqué publié dimanche sur le site du ministère. Le ministère haïtien des Affaires étrangères a dit recevoir avec beaucoup d'intérêt l'annonce qui, selon Port-au-Prince, confirme la volonté de ce pays frère, le Kenya, d'apporter un appui effectif
aux forces de l'ordre haïtiennes et même de considérer la possibilité d'assumer le leadership d'une force multinationale dès que le Conseil de sécurité de l'ONU aura donné son aval. Le Kenya a également indiqué qu'il allait envoyer sur place une mission d'évaluation par une équipe opérationnelle de sa police dans les prochaines semaines. Le ministère haïtien a dit qu'il accueillerait avec plaisir cette mission. Les gangs contrôlent environ 80% de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, et les crimes violents tels que les viols, les enlèvements contre rançon, les vols à main armée et les détournements des voitures sont quotidiens. Les forces de sécurité haïtiennes étant débordées, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le premier ministre haïtien Ariel Henry ont appelé à une intervention internationale pour soutenir la police.
Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans un attentat suicide dimanche dans le nord-ouest du Pakistan lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical. Pour un spécialiste pakistanais des questions de sécurité, l'attaque s'inscrit dans la violence terroriste qui semble monter en puissance au Pakistan à l'approche des élections afin de créer un climat d'instabilité qui pourrait conduire à retarder les élections. Les élections sont en effet prévues en octobre ou novembre. La Russie a annoncé dimanche avoir repoussé dans la nuit deux attaques distinctes de drones ukrainiens qui ont visé un important quartier d'affaires de Moscou et la Crimée annexée sans faire de victimes. Sans évoquer cette attaque, Kiev, ayant pour habitude de ne pas revendiquer ses éventuelles opérations menées en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a noté dimanche que la guerre arrive sur le territoire de la Russie. Merci Manit. À présent, les sports avec Élisée Oupatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, la suite du mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Maroc s'est racheté contre la Corée du Sud.
Oui, les joueuses de Renat Pedros, qui avaient subi une correction lors de leur première sortie terminée sur un 6-0 face à l'Allemagne, se sont relancées en dominant sur le score de 1-0 les Sud-Coréennes. Classées désormais troisième avec 3 points, le Maroc pourrait se qualifier pour le prochain tour à condition de battre pour son troisième match le leader du groupe la Colombie qui compte 6 points suite à son succès 2-1 sur l'Allemagne. Mais en attendant, le Nigeria, premier du groupe B avec 4 points qui affronte tout à l'heure l'Irlande, a la possibilité de valider sa qualification pour les huitièmes de finale.
Football toujours, mais chez les hommes, et après le tirage au sort des interclubs de la CAF, le stade malien nourrit déjà des ambitions.
Le club de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, qui va jouer au premier tour, les Libériens de Ouattanga vient de s'attacher les services d'un nouvel entraîneur, Sekou Sek Di Bako. Le technicien malien a la lourde mission de remporter tous les trophées nationaux et d'aller le plus loin possible en Coupe CAF. Il est au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Quand tu vas dans une équipe comme le Stade, c'est tellement clair, c'est-à-dire c'est jouer le titre, la Coupe nationale et essayer d'aller le plus loin possible en compétition. La motivation pour moi de venir au stade, c'est de pouvoir aller jouer les titres, c'est de voir l'environnement, le CV, palmarès, tout autour. Au jour d'aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est le seul club au Mali qui a su avoir un trophée continental. Pourquoi se refuser le droit de venir entraîner cette équipe? Un entraîneur, quand tu veux rentrer dans ces métiers, tu vas avec la pression. Et si tu veux entraîner une grande équipe, tu vas avec la pression. Cette pression, nous, ça ne nous effraie pas.
À noter que Sekou Sek avait déjà entraîné le stade malien en 2018.
Direction la RDC où se déroulent actuellement les Jeux de la Francophonie.
Oui, et les premières médailles tombent déjà en lutte libre chez les hommes. Andy Mukendi offre l'or à la RDC dans la catégorie des 119 kilos. Il a battu au point l'Arménien Simonia Razmik. Au niveau des dames, première médaille d'or également pour le Cameroun. Et c'est Myriam Ngoué qui l'emporte dans la catégorie des moins de 57 kilos devant la Congolaise Priska Madundu. En basketball féminin, le Cameroun a dominé Madagascar 66-64. Et puis, en football, au programme aujourd'hui, Bénin, Mali, Sénégal, Burkina Faso et Cameroun, Niger.
On termine par l'afro-basket féminin qui se déroule au Rwanda.
Et on connaît les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Ce sera avec le triple tenant du titre, le Nigeria, après son succès 83-65 sur l'Égypte. Qualification également du Cameroun, vainqueur de la Guinée 70-50, de l'Angola qui a battu le pays hôte, le Rwanda, après prolongation 74-68, et du Mali qui a corrigé le Sénégal 72-49.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les nouvelles autorités du Niger ont reçu ce dimanche le soutien de milliers de manifestants. En effet, une marche a été organisée dans la capitale Niamey et dans certaines régions pour soutenir leur action. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Abat la France, abat la CEDEAO, vive les forces de défense et de sécurité, vive la Russie. Ce sont là, entre autres slogans, écrits sur les pancartes et scandés par beaucoup de manifestants sortis ce dimanche matin pour soutenir l'action des militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les nouvelles autorités du pays.
C'est le peuple nigérien qui est sorti pour manifester son mécontentement contre une politique qui a duré 12 ans. Pendant 12 ans de régime, le quotidien des Nigériens n'a pas changé. Par conséquent, les Nigériens ont appelé à sortir massivement et débouter dehors cette politique. Nous réaffirmons notre soutien pour l'FDS.
Nous leur souhaitons bonne chance et nous espérons que vraiment les changements véritables qui se dessinent au Mali, au Burkina Faso, va s'imposer au Niger. Et que le peuple nigérien dira aujourd'hui son nom dans le concert des nations.
Dans la foule, les manifestants, conscients de ce que va être la suite des rapports entre le Niger et ses partenaires du fait de cette situation, ont assuré les nouvelles autorités de leur soutien pour y faire face.
Aux militaires de faire très très attention, parce que le peuple nigérien compte sur lui. Et que si par hasard, il se lance dans une autre manœuvre qui consisterait à satisfaire l'Occident ou même M. Issouf, nous allons encore revenir leur dire non.
C'est à nous de faire ce que nous voulons, Niger. Ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Et donc je pense que les choses sont claires. Nous disons à la CEDEAO que le Niger nous appartient. Il n'appartient pas à un individu de la CEDEAO ou à un président de la CEDEAO de venir décider pour le Niger.
La question de la réunion extraordinaire de la CEDEAO qui est en train peut-être de se tenir actuellement pour décider de la possibilité d'intervenir ou de ne pas intervenir au Niger pour pouvoir, comme ils l'ont dit, reprendre le pouvoir et le restituer à ceux dont ils pensaient qu'ils viennent d'être déchus. Je crois que c'est une aventure périlleuse et c'est manquer le sens de l'histoire et dévoyer la CEDEAO elle-même de sa mission première, qui est celle de créer les conditions d'un réel développement et de coopération des pays qui sont les nôtres.
À la fin du meeting, un groupe de manifestants s'est rendu au niveau de l'ambassade de France où des actes de vandalisme ont été posés. L'intervention de certains membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et des éléments des forces de défense et de sécurité nigériennes ont permis de vite calmer la situation. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les putschistes au Niger ont 7 jours pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Cet ultimatum fait partie des résolutions prises par les chefs d'État de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, lors d'un sommet à Abuja. Abuja, notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
C'était un sommet d'urgence à l'appel du président nigérien, président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu. Les chefs d'État de la région se veulent fermes et ils ont menacé de recourir à la force pour établir l'ordre, exigeant que les soldats libèrent le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, dans un délai d'une semaine, sous peine de sanctions. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. L'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services.
Pour le président nigérien Bola Tinubu, le temps est venu pour des actions concrètes.
No more time.
Plus de temps pour nous d'envoyer des signaux d'alarme. Il est temps d'agir et nous devrions y travailler.
We should work our talks.
Au Nigeria, on suit de près ce qui se passe au Niger voisin. Farouk Bibi Farouk est professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja.
Nous voyons pour la première fois que la CDAO essaie de faire un pas en avant et de décider contre les gouvernements qui sont arrivés au pouvoir par un coup d'État militaire, comme cela s'est produit récemment au Niger. Dans la section 6 de leur communiqué, la CDAO menace en fait d'utiliser la force militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel et a même demandé aux unités militaires de la CDAO d'être en état d'alerte pour se préparer à une telle mission.
Pour les pays de la région, les prochains jours pourraient être décisifs dans la résolution de la crise au Niger. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté vendredi chez lui par une unité d'élite de la gendarmerie suite à une altercation avec une femme gendarme. Au lendemain de son arrestation, le procureur a annoncé des poursuites pour divers chefs d'accusation. Les avocats de l'opposant ont quant à eux répliqué ce dimanche. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
De très lourdes charges pèsent sur l'opposant Ousmane Sonko. Abdou Karim Diop, procureur de la République près d'un tribunal de Dakar, convoque des faits allant de mars 2021 à juillet 2023.
Il sera poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Ce qu'il faut admettre et reconnaître également, c'est que le Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d'une dame gendarme et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol.
Les avocats de l'opposant ont apporté la réplique en évoquant une arrestation entourée de contradictions. Maître Youssoufa Camara, membre du pôle des avocats d'Ousmane Sonko.
Dans un premier temps, il nous sert un communiqué pour nous dire que c'est une voiture en panne qui est à l'origine de tout cela. Et c'est le vol, c'est ça le communiqué. Mais après, quand il fait sa conférence de presse, il revient pour dire non, c'est pas ça. Nous, on avait décidé depuis longtemps de l'arrêter. Ce jour-là, on devait l'arrêter. Même s'il n'y avait pas cette histoire, on l'aurait arrêté. Donc je dis, il est temps qu'on nous respecte, nous, Sénégal.
Autre fait marquant, Juan Branco, avocat français de Ousmane Sonko, est arrivé en pleine conférence de presse alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt international par un procureur sénégalais. Comment est-il entré au Sénégal? Le gouvernement n'a pas encore officiellement communiqué là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que lui assume sa posture.
Monsieur le procureur de la République, nous sommes venus ici vous dire que nous n'avions pas peur. Nous sommes venus ici, au Sénégal, où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur.
En attendant de savoir quel sort sera réservé à Ousmane Sonko après son audition par le juge prévue ce lundi, le leader du parti PASTEF a entamé une grève de la faim. Il est toujours dans les locaux de la Brigade des Affaires Générales, une unité de la police sénégalaise rattachée à la division des investigations criminelles. Seydina Abagué pour VOA Afrique, Dakar.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lumbumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
À 3 semaines des élections générales au Gabon, l'opposition et la société civile dénoncent des entraves à la transparence électorale. En dépit des protestations des requérants, les récentes modifications du texte encadrant la présidentielle, les législatives et les municipales ont été validées par la Cour constitutionnelle. Ces nouvelles dispositions suppriment les enveloppes accolées et limitent la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Dans cette ambiance préélectorale tendue, la classe politique est divisée sur la tenue ou non des consultations à la date du 26 août prochain. Les explications de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
De l'avis de la plateforme politique de l'opposition Alternance 2023, c'est un processus électoral plutôt mal embarqué. Mais elle ne recule pas malgré le rejet de sa requête en annulation de la récente réforme électorale. Jean-François Ndorobian, président d'Alternance 2023.
Cet acte d'une extrême gravité demande une mobilisation citoyenne et patriotique de grande ampleur pour sauver le Gabon des naufrages certains. Nous invitons le peuple gabonais à rester mobilisé et serein, car malgré toutes ces manipulations et manigances, nous gagnerons.
Cet optimisme de la plateforme Alternance 2023 ne convainc pas une opposition gabonaise morcelée à la veille du scrutin. Président d'une nouvelle formation politique, les démocrates libres, docteur David Akouré, se retire de la présidentielle.
C'est avec gravité et responsabilité que je confirme le choix de ma non-participation à cette élection majeure.
Il s'agit du plus important désistement au scrutin présidentiel de l'année, après celui de Paul-Marie Ngondjo de l'Union nationale initiale. Tous ces retraits renforcent la démarche des partisans du boycott des élections du 26 août. Le COTED, le consortium de la société civile pour la transparence électorale, demande de tout arrêter pour organiser la transition politique. Pasteur Georges Bruno Goussy, le président du COTED.
Le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser d'abord en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition.
Face aux craintes de l'opposition et de la société civile sur les risques d'une crise post-électorale, le PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir, appelle à la retenue. Frédéric Massavala Mambumba, porte-parole du PDG.
Les échéances électorales à venir ne sauraient être le prétexte d'une déchirure de notre tissu social, encore moins des violences inutiles qui plongeraient la nation dans les tourments.
Devant le corps diplomatique accrédité à Libreville, le Premier ministre Alain-Claude Bilimizé a assuré la semaine dernière que les élections générales du Gabon seront libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en ondes de Lionel Runanira Gahima, à la console Jonah Cummins. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter, rebaptisées X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Kledou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VR.